Bonjour à tous, un nouveau format flash aujourd'hui pour poursuivre notre chronique en fait du despotisme en fin de course d'Emmanuel Macron en particulier. Sans s'attacher à sa personne, hein, l'intéressant est toujours la façon dont évolue cette fonction de la monarchie présidentielle absolue. On a beaucoup parlé ces derniers mois du fait que Emmanuel Macron tendait à jouer très fortement de son pouvoir de nomination, dont je vous ai parlé dernièrement. Qui est probablement le pouvoir le plus important en réalité du président de la République, qui est très puissant, qui avait été considérablement étendu par François Mitterrand. Je renvoie, vous avez un short sur la chaîne qui parle de cette question, et j'en avais parlé dans une émission il y a quelque temps. C'est extrêmement important le pouvoir de nomination, c'est beaucoup plus important que le pouvoir de dissolution, etc., qui sont un peu des menaces qui planent, si vous voulez, mais c'est un peu la dissolution, c'est l'arme nucléaire, le pouvoir de nomination, c'est l'arme conventionnelle, c'est-à-dire c'est ce que vous utilisez au jour le jour pour manœuvrer et pour former, pour peser dans le jeu politique, puisque ça vous permet de faire des carrières, de garantir que la fidélité de certains députés, de certains agents, que vous êtes capable de rétribuer, en fait, avec des postes, parce que vous avez ce pouvoir de nomination. Et donc Emmanuel Macron, il continue à jouer à plein de ce pouvoir-là, y compris pour préparer l'après lui. Peut-être d'ailleurs parce que, comme on a déjà eu l'occasion de le souligner, en France, même si on l'a vu, il arrive à se faire acclamer dans des pays étrangers comme en Arménie, Emmanuel Macron est extrêmement impopulaire en France, sans doute au-delà de ce qu'a pu être même chez les autres présidents en fin de règne. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il n'a pas de base politique pour espérer se rebondir derrière. Alors, c'est pas une garantie de rebondir derrière, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy à l'époque, mais le fait d'avoir au moins un parti dans lequel vous avez des gens à vous, normalement, ça permet, une fois parti du pouvoir, de reprendre la tête de ce parti, éventuellement de préparer des élections suivantes, de continuer à peser dans le jeu par ce biais-là. Emmanuel Macron, même si c'est lui qui a lancé le mouvement En Marche, qui a ensuite est devenu le parti Renaissance, etc., ben il n'a pas tellement cette assise de parti. Ça n'existe pas et ça paraît très compliqué pour lui d'arriver à créer ça, alors que ben il y a d'un côté Attal et d'autres, hein, puisque Borne s'en est séparé, qui essaient de récupérer leur propre toute la structure du macronisme, la véritable structure, on va dire le début d'institutionnalisation du macronisme, mais début et la fin, puisque c'est déjà plus macroniste. Mais Emmanuel Macron, lui, va se retrouver sans rien. Sans rien, et finalement isolé dans l'après. Et on a le sentiment qu'il essaie de compenser ça, effectivement, par le fait de truster les places dans l'appareil d'État pour avoir, finalement, du pouvoir à l'intérieur de cet appareil d'État, même après son départ. Et des appuis qui pourraient éventuellement peut-être lui servir à revenir plus tard. Donc ça a été déjà mentionné dans le commentaire, mais il y a eu deux nominations particulièrement importantes là ces deux derniers jours, et pour le coup avec des très proches d'Emmanuel Macron. Nous avons, comme je vous l'affiche là, Marc Guillaume, qui donc déjà quand il avait été nommé préfet, ça avait paru un peu curieux parce que c'était pas véritablement dans sa carrière précédente. Il a été lui-même secrétaire général du gouvernement, donc là aussi proche de l'exécutif, et donc nommé à la tête du Conseil d'État par un Emmanuel Macron qui désormais est à moins d'un an de son départ du pouvoir. Et une deuxième nomination extrêmement importante, Villeroy de Galhau, dont il était question qu'il s'en aille de la Banque de France, effectivement en part, et par conséquent qui nomme Emmanuel Macron son secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin. Donc là aussi, un autre poste qui est totalement verrouillé au service d'Emmanuel Macron, ce qui naturellement fait naître également des critiques. Je disais dans Mediapart tout à l'heure, il rappelait que la Banque de France est censée être indépendante précisément du pouvoir, c'est censé être le principe de la Banque de France. Donc si c'est un fidèle du président, du roi, qui est nommé, naturellement ça pose un petit problème, d'autant plus qu'on est, surtout en ce qui concerne Marc Guillaume, sur des personnalités un petit peu problématiques, hein. Vous irez regarder sa fiche Wikipédia. C'est un personnage qui a été considéré comme déjà très carriériste, toujours prêt à être à être complaisant avec le pouvoir plutôt qu'à servir sa fonction elle-même. Et puis en plus, il y a eu quelques petits problèmes de comportement personnel, comme vous le voyez, notamment sa proximité avec Olivier Duhamel. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que Olivier Duhamel, même s'il a été totalement écarté des sphères de pouvoir à partir de 2021 en raison des affaires odieuses qui sont sorties sur sa vie privée, mais ça représentait un petit peu le cœur idéologique de cette génération boomer, donneuse de leçons qu'on a entendu, que j'ai entendu pendant toute mon enfance, moi, toutes les élections, etc., tous les événements politiques, vous aviez Olivier Dumamel qui venait vous donner des leçons, distribuer les bons et les mauvais points, voilà, comme un certain nombre d'autres personnages hein, qu'on a vu tomber, hein, Gérard, dans d'autres catégories, Gérard Miller, Jack Lang, etc. Donc tous ces gens sont encore là, et finalement, ce sont leurs rejetons, ou les gens qui sont proches d'eux, qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron nomme dans des postes très importants de la République et à travers lesquels il espère prolonger son pouvoir au-delà vraisemblablement de son propre mandat. Tout ceci à la faveur d'une motion de censure il y a 1 an et demi qui n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique puisque le président tient. Et en fait, c'est notre version moderne, selon moi, de Monsieur Veto. Hein. C'est assez clairement Louis XVI qui, après les premiers soubresauts de la Révolution française, la proclamation de l'Assemblée nationale, eh bien, a essayé 1 an et demi plus tard, 2 ans, de remettre la main sur le pouvoir, de bloquer, en utilisant ses pouvoirs constitutionnels, ce qu'il disait lui-même, de bloquer l'action des assemblées en continuant. Alors, c'était plus en bloquant les réformes. Emmanuel Macron, c'est en essayant de placer ses hommes, mais on est dans la même logique. Or, ça peut vouloir dire qu'on est au bout du bout, parce que si on suit la trajectoire, de toute façon, Emmanuel Macron ne sera plus là dans pas longtemps physiquement, puisqu'il doit quitter son poste s'il y a une prochaine élection. Mais c'est des choses qui vont aussi affaiblir malgré tout la fonction présidentielle, parce que même si, mettons, c'était un Édouard Philippe qui venait à succéder à Emmanuel Macron, eh bien, il se retrouvera avec un pan de son pouvoir qui sera rabaissé, puisque d'une certaine manière, en concentrant sur lui l'usage de ce pouvoir de nomination, aujourd'hui Emmanuel Macron, d'une certaine manière, en prive son successeur. Alors, d'ailleurs, il le fait explicitement, en se disant que ça stabilisera la République, hein, si on lui accorde une pensée, disons, qui serait à tout le moins soucieuse du bien public et légitimiste, on peut penser que ce serait ça son calcul, c'est-à-dire qu'il essaierait de stabiliser l'institution de la République pour éviter les soubresauts qu'entraînerait une présidence trop brutale d'un Mélenchon ou d'un Bardella, selon. Sauf que ce faisant, ça veut dire aussi que si c'est un centriste, comme Édouard Philippe, qui est arrivé au pouvoir à la présidence de la République, eh bien, forcément, et de facto, il aurait un pouvoir de nomination qui serait inférieur parce qu'il aurait déjà été capté, finalement, anticipé par Emmanuel Macron, et donc c'est autant de pouvoir que Emmanuel Macron enlève à son successeur. Donc, en réalité, sur le calcul de durée, on va dire, et de la présidence absolue, pour moi, cela va affaiblir, déjà parce que ça va faire naître, et ça fait naître, un débat sur le pouvoir de nomination du président, ce qui en soi est important, mais ensuite, vu que les nominations sont effectives dès maintenant, eh bien, ces nominations dont son successeur sera privé, dans un premier temps, ce qui devrait donner, là aussi, plus de pouvoir ou de liberté, ou moins d'attente vis-à-vis du pouvoir de nomination du président, au gouvernement, et donc favoriser une mutation parlementaire du régime. Voilà pour ce petit point sur l'évolution du régime. À bientôt, vous laissez pas faire, pensez à pousser, à vous abonner, à activer la cloche.